Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Daniel Hillion et je travaille depuis maintenant presque 16 ans pour le SEL, le service d'entraide et de liaison, où je suis chargé des relations avec les églises, ce qui implique en particulier le fait de visiter les églises un peu partout en France pour parler avec les chrétiens de ce que la Bible a à nous dire sur notre responsabilité face à la pauvreté et pour présenter les diverses actions soutenues par le SEL. Et dans le cadre de mon travail au SEL, je suis aussi chargé de stimuler la réflexion biblique et théologique sur les questions en lien avec la pauvreté. Et dans le cadre de la réflexion de ce congrès sur le thème de l'argent, je voudrais que nous prenions le temps de nous demander ce que Dieu attend de nous dans l'usage de notre argent en relation avec la situation de ceux qui vivent dans la pauvreté. Je suis désolé, je n'ai pas de PowerPoint, j'espère que je vais quand même réussir à garder votre attention et à me faire comprendre. Les humains sont liés les uns aux autres par un lien de société. La manière dont nous utilisons notre argent s'inscrit dans le tableau de notre vie au sein de la société humaine. Et elle n'est pas sans rapport avec la situation des membres les plus fragiles de cette société. Alors il y a bien sûr la question de savoir si nous choisissons de donner quelque chose aux personnes qui vivent dans la pauvreté ou pour les personnes qui vivent dans la pauvreté. Mais les sujets de nos choix de consommation et éventuellement, pour certains d'entre nous, de la manière dont nous investissons notre argent, ne sont pas sans lien avec la situation de personnes ou de populations dans la pauvreté, parfois près de nous, parfois plus loin de nous. Le chrétien qui est appelé à vivre dans le monde sans être du monde fait partie de la société humaine. Qu'est-il appelé à y faire avec son argent? Qu'est-il responsable d'y faire avec son argent face aux situations de pauvreté? Mon objectif au cours de cette intervention, ce sera d'abord d'essayer de vous faire sentir quelque chose de la complexité de la situation actuelle. Et puis ensuite de proposer à votre méditation quelques pistes de réflexion. Pas pour essayer de résoudre instantanément toutes les difficultés, pas pour donner toutes les réponses, mais plutôt pour esquisser un cadre dans lequel chacun devra se frayer un chemin pour contribuer à sa façon au bien commun, mais surtout pour aimer son prochain en réponse à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le sujet que nous abordons est difficile. Il nous implique de façon personnelle. Il peut créer des débats, vifs parfois, ou déboucher sur des choix très divers dans la pratique. Et c'est avec une certaine appréhension que je vous livre mes réflexions aujourd'hui, parce qu'elles ont encore besoin d'être précisées, ou même peut-être d'être purifiées. Je suis conscient en particulier du fait que le sujet m'implique moi aussi personnellement, et que j'ai beaucoup à progresser dans l'ensemble des domaines dont je vais parler. Pour vous faire sentir quelque chose de la complexité de la situation actuelle, je voudrais évoquer par contraste un ouvrage que j'ai eu l'occasion de découvrir ces derniers mois. Il s'agit d'une synthèse, un synopsis, comme le dit l'un des termes employés dans le titre, une synthèse de la théologie protestante réformée du début du XVIIe siècle, rédigée par 4 professeurs de l'université de Leyde aux Pays-Bas. L'un de ces chapitres est une disputatio, comme on dit, sur l'aumône et le jeûne, et développe une théologie de la réponse chrétienne à la pauvreté, considéré comme une sorte de concentré de ce que c'est que l'amour du prochain, comme l'acte d'amour du prochain par excellence. Je ne sais pas si Beaucoup d'entre nous, si on leur demande c'est quoi l'amour du prochain, penseraient que l'acte d'amour du prochain par excellence, c'est l'aumône. On pourrait en discuter. Ce texte amène aussi à réfléchir sur la gestion de l'argent, sur la propriété privée et sur la générosité. Bref, des sujets très liés au thème de ce congrès. L'impression que j'ai retirée à la lecture de ce chapitre est à la fois celle d'une réflexion extrêmement solide et pertinente et en même temps d'un très fort contraste entre la situation qu'il nous présente et celle à laquelle nous sommes confrontés en ce début de XXIe siècle. Le monde que le synopsis déroule devant nous paraît infiniment plus simple que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Impression d'ailleurs que l'on peut peut-être aussi retirer de la considération de ce que l'Écriture nous dit de l'Israël des temps bibliques. Les relations que le synopsis présente sont en effet très directes. Elles vont d'un individu à un autre individu. Elles conduisent directement du riche qui donne au pauvre qui reçoit. Et même les questions sociopolitiques qui sont traitées, comme la question de savoir si l'aide aux pauvres devrait plutôt dépendre de l'action publique ou de l'action de l'Église, même des questions comme celles-là sont à comprendre dans le cadre d'un petit pays, les Pays-Bas, dans un contexte où les questions sociales s'abordent au niveau de la ville, et de plus dans un régime de chrétienté, où le spirituel et le temporel, s'ils sont bien distincts, ne sont pas séparés du tout. Et alors les classifications se font tellement facilement entre, vous avez d'un côté la distinction entre les bons riches que Dieu a bénis pour qu'ils partagent avec les autres et les mauvais riches dont les richesses sont mal acquises. Et puis de l'autre côté, les bons pauvres qu'il faut aider et puis les mendiants de profession qui volent les vrais pauvres en détournant vers eux l'aide qui aurait dû aller vers d'autres. Par contraste, nous vivons aujourd'hui dans un contexte de mondialisation où tout semble être devenu tellement plus compliqué. J'emprunte à un gros ouvrage qui résume la doctrine sociale de l'Église catholique et qui peut nous amener à réfléchir aussi la caractérisation suivante de la mondialisation. Il s'agit d'un processus d'intégration croissante des économies nationales sur le plan du commerce des biens et services et des transactions financières. Un processus d'intégration croissante des économies nationales. Et le compendium signale que les liens économiques et financiers entre acteurs nationaux agissant dans différents pays ont toujours existé. Mais ce qui est nouveau, c'est la capacité d'expansion et la nature absolument inédite du système de relations qui est en train de se développer. Les relations se multiplient, se complexifient. Et cela entraîne, je cite encore, une perte progressive d'efficacité de l'État-nation dans la conduite des dynamiques économiques et financières nationales. Il y a quelques années de cela, mon directeur, Patrick Guibora, avait écrit pour faire sentir la façon dont nous sommes tous impliqués dans la mondialisation, la phrase suivante: « Dans la vie quotidienne, votre ananas est de Côte d'Ivoire, votre café du Brésil, votre chocolat du Ghana, votre chaise en bois d'Indonésie, l'uranium de votre électricité du Gabon, vos chaussures de Chine, votre ballon du Pakistan et vos haricots du Burkina Faso. » Et cette situation-là implique des relations. Des relations d'une certaine sorte. Et comme le dit l'auteur chrétien Tim Chester, le commerce nous connecte au monde. Il nous met en relation avec des gens très éloignés de nous. La question est-ce que ces relations sont une bénédiction ou une malédiction ? Que je le veuille ou non, je suis au moins dans une certaine mesure un acteur économique et social. Mes choix de consommation sont liés d'une façon ou d'une autre à la situation de ceux qui produisent ce que j'achète. Et nous savons bien, ou en tout cas nous pressentons, qu'une partie d'entre eux vit dans des conditions effrayantes de dénuement et d'exploitation. Ce qui est vrai des transactions commerciales, la complication du système, l'est aussi de ce qui relève de la philanthropie. Ça fait déjà très longtemps qu'il existe des possibilités d'agir pour des personnes qui vivent dans la pauvreté loin de chez soi. Dès le Nouveau Testament, vous avez l'exemple de cette collecte organisée pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. Et à l'époque, la distance représentée par l'éloignement était quand même assez importante. Mais aujourd'hui, la chose s'est développée d'une manière vertigineuse. Vous pouvez, en quelques clics, avoir des milliers de choix d'aide différents avec lesquels vous pouvez atteindre tous les points de la planète, ou presque. Et si le prochain est celui qui est à portée de notre action, le nombre de prochains potentiels ces dernières décennies a explosé, non seulement en raison de la démographie humaine, mais surtout du fait que les technologies ont mis à portée de notre action les personnes les plus éloignées de nous géographiquement. Dans de telles conditions, la question de ma contribution au bien commun ou aux maux sociaux semble se poser de façon très différente de ce qui était le cas il y a quelques siècles ou même seulement quelques décennies, et encore plus au temps de la Bible. Étant relié à tout, je peux avoir l'impression d'être responsable ou même coupable de tous les maux qui se produisent sur la planète. Contrairement aux Israélites d'Ésaïe 58, je n'ai pas d'ouvrier que je traiterai durement. Mais ceux qui ont extrait le coltan, ce minerai qui entre dans la fabrication de mon téléphone portable, n'ont-ils pas été bien plus inhumainement traités que les ouvriers d'Ésaïe 58 ? Maintenant, le problème se retourne quand l'échelle de notre vie prend la dimension du monde et non plus celle d'un village, d'une ville ou même d'un pays. Parce que rapidement, ce que je fais ou ne fais pas semble se perdre dans un océan où tous mes actes ne sont que des gouttes d'eau insignifiantes. Nous pouvons avoir le sentiment confus que quoi que ce soit que nous fassions, ça ne changera rien à la situation globale de notre monde. Si l'Israélite d'Ésaïe 58 arrête de traiter durement ses ouvriers, cela change quelque chose pour les ouvriers en question du jour au lendemain. Mais si je renonce à posséder un téléphone portable, ça ne changera rien du tout pour ceux qui extraient le coltan en République démocratique du Congo. Il faudrait beaucoup d'autres actes par beaucoup d'autres personnes pour que quelque chose change. Dans le domaine de la philanthropie, la culture de la publicité nous incite à rechercher des résultats spectaculaires et immédiats, avec l'illusion que nous pouvons changer le monde avec quelques euros et en restant confortablement installés dans notre salon. Et en même temps, le cynisme ambiant nous conduit à penser que rien de ce que nous faisons ne sert à rien. D'ailleurs, quelle que soit l'action proposée, vous trouverez un spécialiste ou un journaliste pour vous dire qu'elle est inutile, voire immorale et contre-productive, ou qu'elle risque d'être détournée de sa fin, que ça parte de la pièce que vous donnez à celui qui vous la demande dans la rue, en passant par le grand projet humanitaire et en arrivant à l'aide publique au développement. Dans ce contexte, la question se pose aussi de savoir si le style de vie des chrétiens se différencie vraiment de celui des non-chrétiens. Le chrétien moyen honnête ne vit-il pas de manière très semblable aux non-chrétiens moyens honnêtes ? Nous pouvons d'ailleurs nous demander si les chrétiens qui adoptent une pensée ou un style de vie plus « radical » entre guillemets dans leur manière de gérer leur argent, de consommer ou de se soucier des pauvres, se différencient sensiblement des non-chrétiens entre guillemets « radicaux », altermondialistes ou autres. Y a-t-il une troisième voie spécifiquement chrétienne ? Ou bien les chrétiens sont-ils censés vivre plus ou moins comme tout le monde? Vous voyez, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui est compliquée. Et peut-être ferions-nous bien de commencer par prendre la mesure de cette complication. Dans le contexte actuel, je voudrais faire un certain nombre de propositions, de réflexions, pour se frayer un chemin dans cette situation compliquée. Dans le contexte actuel, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'usage de notre argent, en relation avec ceux qui vivent dans la pauvreté? Notre monde est devenu si complexe que nous pouvons être tentés de penser qu'une pensée chrétienne classique, comme celle qui se trouve dans le synopsis, ou même les textes bibliques, sont trop simples pour pouvoir s'y appliquer. En réalité, des cas simples peuvent nous aider à nous repérer dans des cas plus compliqués. Et puis surtout, l'écriture est beaucoup plus fine que ce que le lecteur trop pressé pourrait croire. Aujourd'hui encore, elle est parfaitement adaptée et suffisante pour nous guider dans nos choix et nos décisions concrètes. La Bible, de la Genèse avec Babel à l'Apocalypse avec Babylone, attire déjà notre attention sur la face collective du mal, sur le mal institutionnel, systémique, sur l'empire mauvais, avec son potentiel démultiplié pour la destruction, bien plus fort, bien plus puissant que ce qu'un simple individu mauvais est capable de faire. Le monde mauvais, ce n'est pas la simple somme des individus non-croyants, mais c'est comme un organisme qui s'oppose au Seigneur. Les chrétiens qui vivent dans le monde ont forcément un rapport avec ce système mauvais, mais ils ne sont pas du monde. Commençons par réfléchir à notre vie au sein d'un monde mauvais, avec l'aspect de système mauvais que ce monde comporte. Il me semble qu'une question cruciale, voire peut-être la question cruciale, a été posée par le théologien mennonite Ron Sider. C'est la question suivante. Est-ce que nous péchons personnellement quand nous participons à un système qui est mauvais? Est-ce que nous péchons personnellement quand nous participons à un système qui est mauvais? Et Sider pense en l'occurrence au système et aux structures économiques, politiques, commerciales qui profitent aux plus aisés et qui défavorisent les pauvres. Je trouve que Ron Sider répond d'une manière extrêmement fine, mais par contre, je suis entièrement et seul responsable des conséquences que je vais en tirer, et je ne suis absolument pas sûr qu'il les ratifierait. Sider explique que si nous comprenons quelque chose du mal du système auquel nous participons et que nous faisons tout ce que Dieu demande de nous pour changer le système, nous ne péchons pas personnellement. Et je crois que c'est exactement la bonne réponse. Si nous comprenons quelque chose du mal du système auquel nous participons et que nous faisons tout ce que Dieu demande de nous pour corriger l'injustice du système, nous ne péchons pas personnellement. En effet, la question de notre responsabilité ou de notre culpabilité personnelle se joue dans ce que Dieu demande de nous. C'est de cela, et uniquement de cela, que nous sommes responsables. Alors revenons au béaba. La Bible résume ce que Dieu demande de nous dans les deux commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Soulignons simplement ici le caractère personnel du commandement de l'amour du prochain. L'amour du prochain, ça ne consiste pas à aimer tous les humains, 7 milliards de personnes. Vous ne pouvez pas aimer 7 milliards de personnes. Vous ne pouvez même pas connaître le nom de chacun d'entre eux. Comment prétendre les aimer? Il ne s'agit pas non plus, il s'agit encore moins d'aimer l'humanité ou la société. Le prochain, c'est la personne concrète que Dieu place sur mon chemin. Pas forcément géographiquement d'ailleurs, la personne concrète que Dieu place sur mon chemin, celui par rapport à qui je suis appelé à être ou à devenir le prochain, moi-même. Et ce caractère personnel et concret de la notion de prochain me semble impliquer que ma responsabilité face au système a toujours quelque chose d'indirect et de subordonné par rapport au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. C'est de ça dont je suis responsable. Et quand, pour aimer Dieu et mon prochain, il faut que je fasse quelque chose par rapport au système, alors je suis responsable de le faire. Et il me paraît opportun ici de rappeler la parole paradoxale de l'Ecclésiaste. Ne deviens pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te ruinerais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela, car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Ecclésiaste chapitre 7, versets 16 à 18. Ces paroles me fascinent depuis longtemps. Elles suggèrent que dans notre monde, il est possible d'être si passionné par la justice, par le refus de tout lien avec quelque chose de mauvais, que cela ne peut aboutir qu'à la ruine. Je rapprocherai aussi cela de la parole de Jésus, qui nous appelle à nous faire des amis avec les richesses injustes. Luc chapitre 16, verset 9. Nous faire des amis, encore un terme qui évoque des relations personnelles. À propos de ce dernier texte, le synopsis récuse la pensée qu'on pourrait en tirer l'idée de faire du bien avec des richesses mal acquises. Alors c'est certainement vrai si l'on pense à des relations très directes. Il n'est pas légitime pour moi de faire un don au sel avec de l'argent que j'aurais été prendre dans votre porte-monnaie. Robin des Bois n'est pas un héros biblique. Mais Henri Blocher a su, je crois, placer le verset de Luc 16 dans un cadre plus complexe. Je le cite, « J'interprète parfois l'expression « les richesses injustes » de Luc 16 dans le sens que dans ce monde, toute richesse porte la marque d'injustice. L'attitude recommandée n'est pas tournée vers le passé, la genèse de cette richesse ou son appropriation, mais son usage aujourd'hui. Est-ce que nous péchons personnellement si nous participons, notamment par l'usage que nous faisons de notre argent, à un système injuste? J'arrive pour ma part à la conclusion que le seul fait de participer à un système mauvais ne suffit pas à nous rendre coupables personnellement. Ma responsabilité directe consiste à aimer Dieu et mon prochain. Mais soyons honnêtes, nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur et nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes. Il est plus que probable que nous n'accomplissons pas non plus tout ce que Dieu demande de nous dans notre participation à la vie de la société humaine, dans le domaine de l'usage de notre argent, en relation avec ceux qui vivent dans la pauvreté. Parce que pour cela, il faudrait que nous aimions Dieu parfaitement. Sachons seulement bien définir les choses. Ce qui nous rend coupables personnellement quand nous participons à un système mauvais, ce n'est pas d'abord une question de lien causal. Je suis relié par une chaîne à quelqu'un qui a été exploité. Ce n'est pas une sorte de contamination par contact. Je touche un produit qui porterait la marque de l'exploitation. Ce qui nous rend coupables, c'est lorsque cette participation à un système mauvais compromet notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Et j'ai du mal à penser qu'imparfait comme nous sommes, qu'imparfait comme je suis, nous ne compromettions jamais cet amour. L'accent biblique porte sur la crainte de Dieu. Craindre Dieu, d'après le texte de l'Ecclésiaste, c'est la chose qu'on ne peut pas faire à l'excès. Et c'est la chose aussi qui nous donne une direction et une issue en toute situation. Craindre Dieu et observer ses commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est là tout l'homme, et c'est la conclusion de l'Ecclésiaste. Notre relation la plus fondamentale, en effet, c'est notre relation avec Dieu. C'est pourquoi plusieurs chrétiens soulignent aujourd'hui que les questions économiques sont fondamentalement des questions religieuses et que la question déterminante face à toutes les problématiques que nous soulevons en ce moment est de savoir à qui ou à quoi est-ce que nous rendons un culte, ou encore en qui ou en quoi est-ce que nous mettons notre espérance. Est-ce que c'est en Dieu ou en des richesses incertaines ? Et la réponse à ces questions dépend fondamentalement de notre enracinement dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cette grâce de Dieu qui, dit l'apôtre à Tite, nous éduque pour mener dans le temps présent une vie qui plaise à Dieu et qui soit sensée, juste et pieuse. Dans un traité consacré à la justification par la foi, le réformateur anglais William Tyndale écrit en commentant ce que Jésus dit sur l'aumône dans le sermon sur la montagne, qu'il nous faut être pour notre prochain comme Dieu est envers nous. Il nous faut être pour notre prochain comme Dieu est envers nous. Et il a cette parole frappante, tel un homme sent que Dieu est à son égard, tel il est pour son prochain. Tel un homme sent que Dieu est à son égard, tel il est pour son prochain. Quand nous sentons la générosité de Dieu à notre égard, nous devenons généreux à notre tour. Nous ne commencerons à utiliser notre argent d'une manière juste, notamment dans notre relation avec les personnes qui vivent dans la pauvreté, que lorsque nous serons dans une relation juste avec Dieu, justifiés par la foi, couverts par la justice du Christ. C'est uniquement en revenant sans cesse à l'œuvre du Christ pour nous que nous serons en mesure de faire ce que Dieu attend de nous, en aimant notre prochain, parce que nous, nous savons aimer de Dieu, du Dieu en l'image duquel ce prochain est créé, et parce que nous savons que ce prochain est appelé à la vie éternelle s'il n'est pas encore chrétien, et qu'il est notre frère en Christ et héritier de la vie éternelle s'il est déjà chrétien. Il nous faut sentir ou goûter que Dieu est bon envers nous en Christ pour nous montrer bon envers notre prochain. Si nous ne construisons pas sur cette base, nous ne pourrons construire que sur des bases pourries de propre justice. Le Dieu qui nous justifie et pardonne nos péchés est aussi celui qui nous renouvelle intérieurement et écrit sa loi, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, dans notre cœur et qui nous rassemble en un peuple zélé pour les œuvres bonnes. Et il me semble que l'on peut dire que faire ce que Dieu demande de nous dans le domaine de l'éthique, dans l'usage de notre argent, pourra se raconter prioritairement comme un mouvement qui part de l'intérieur, du cœur, et qui va vers l'extérieur, nos relations avec notre prochain et notre vie dans l'Église et dans le monde. Quelques pistes, peut-être un peu plus pratiques, ou quelques pistes de cadre pratique maintenant. L'amour pour Dieu et le prochain au sein d'un système mauvais se traduira de manière très diverse d'un individu à l'autre. Et je me contenterai d'esquisser quelques perspectives pour se mettre en route. L'amour pour ceux qui vivent dans la pauvreté se marquera généralement par le don financier ou le don en nature, partager son pain avec celui qui a faim. Il nous faut tous apprendre à faire une place, à réserver une part pour le pauvre dans notre vie et dans notre budget, à chacun de déterminer laquelle. Un point me semble mériter qu'on s'y arrête un instant. Dans un monde déchu, l'amour portera toujours plus ou moins la marque du renoncement. Ce thème n'est pas très populaire aujourd'hui, y compris dans les églises, mais les textes sont là, puisque Jésus dit que celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être son disciple. Luc chapitre 14, verset 33. Le renoncement, ce n'est pas une valeur en soi, mais il prend de la valeur comme occasion d'aimer, de suivre Jésus et de refléter quelque chose de notre Seigneur et Sauveur. Et je ferai intervenir ici une distinction que j'ai trouvée dans un texte du théologien réformé Auguste Le Cerf entre renoncement virtuel et renoncement réel. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est assez simple en théorie et c'est assez difficile et exigeant en pratique. Le disciple de Jésus est quelqu'un qui a renoncé virtuellement à tout et qui renonce réellement et concrètement à tout ce à quoi Jésus lui demande de renoncer. La référence implicite est ici au texte de Paul qui parle d'acheter comme si on ne possédait pas et d'user du monde comme si on en usait réellement pas. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. Mon père m'avait donné un jour une illustration qui m'avait été utile. Le chrétien est comme un soldat qui, en s'engageant dans l'armée, a fait le sacrifice de sa vie. Il a virtuellement renoncé à sa vie. À n'importe quel moment, il peut être envoyé au front et appelé à y mourir. Et peut-être aussi, ça ne se produira jamais, qu'il fera toute sa carrière dans l'armée dans un bureau. En devenant chrétien, Nous avons virtuellement renoncé à tout et nous devons renoncer réellement, quotidiennement et sur le champ à tout ce à quoi le Seigneur nous demande de renoncer. Chacun va donc devoir discerner les œuvres bonnes, c'est-à-dire les actes d'amour que Dieu a préparés d'avance pour qu'il les pratique, avec les renoncements qu'elles exigent, et cela en fonction des circonstances qu'il traverse, en fonction de son état de vie. Ce n'est pas la même chose d'être père de famille ou célibataire, d'être chef d'entreprise ou d'être boulanger, d'être chômeur ou d'être président de la République, etc., etc. Et dans toutes ces circonstances et dans cet état de vie, nous pouvons discerner une vocation divine. Mais il nous faut être certain que le renoncement virtuel deviendra forcément réel sur certains points et qu'il demandera même parfois une certaine dose d'héroïsme. Prenons un exemple dans l'histoire de l'Église. Je redis un mot de William Tyndale. Il paraît que pendant une période de sa vie où il vivait à Anvers, Tyndale se réservait 2 jours par semaine qu'il appelait ses jours de loisirs. Le lundi, il visitait les réfugiés anglais qui avaient fui l'Angleterre en raison des persécutions. Et le samedi, il marchait dans la ville, cherchant les endroits où il pourrait trouver des personnes pauvres, et là où il en découvrait, qui faisaient ce qu'elles pouvaient, mais qui étaient surchargées par leurs enfants, ou âgés, ou faibles, il leur venait en aide. Et nous, qu'est-ce que nous pourrions faire? Il y a un nombre indéfini de réponses possibles. Demandez aux gens qui ont fait l'atelier ce matin, on en a vu quelques-unes. Mais je me permettrai une interpellation. Si nous ne sommes jamais appelés à faire quelque chose de significatif ou de coûteux pour des personnes en situation de pauvreté, de marginalisation ou de souffrance, posons-nous la question de savoir si c'est vraiment parce que nous ne sommes pas appelés à cela, peut-être, ou si ce n'est pas plutôt parce que nous ne sommes pas suffisamment attentifs ou disposés à saisir les occasions de faire le bien et les possibilités que nous, avec notre argent et les possibilités que nous ouvre notre vocation personnelle. Mais là encore, cet amour pratique et exigeant n'a de sens que s'il plonge ses racines dans la grâce. Si et seulement si, comme nous le chantons, Christ seul nous suffit, serons-nous capables de renoncements significatifs par amour? Si nous revenons maintenant au niveau de notre participation à la vie d'une société si fortement marquée par le péché, je voudrais proposer les quelques pensées suivantes et je commencerai par lire quelques lignes qui vont peut-être vous surprendre un peu de Pierre Sauvane Chauny, qui est professeur de théologie systématique à la faculté Jean Calvin. Je le cite, « La responsabilité des uns et des autres varie considérablement. Certains d'entre nous ne sont pas du tout appelés à remettre en cause le système en place. Qu'ils se contentent de pourvoir aux besoins des leurs, de travailler consciencieusement en faisant confiance à la providence divine, et s'ils peuvent prendre un peu de recul par rapport à notre société, même sans rien en changer, ce sera déjà très bien. » Prendre du recul ou même s'arrêter. Oui, c'est déjà bien. Peut-être plus que ce qu'on croit parfois. Blaise Pascal écrivait « Quand tout se remue également, rien ne se remue en apparence, comme en un vaisseau. Quand tous vont vers le débordement, nul n'y semble aller. Celui qui s'arrête fait remarquer l'emportement des autres, comme un point fixe. » Avant de faire les choses différemment, le chrétien pourrait peut-être commencer par s'arrêter. Arrêter de consommer toujours plus et de chercher son identité dans ce qu'on consomme. Arrêter de donner tant d'importance à la recherche d'un salaire plus élevé ou à l'augmentation de notre pouvoir d'achat. Arrêter de remplir sa vie de choses et d'occupations inutiles. Sur la question des conditions de vie et de travail de ceux qui produisent ce que nous consommons, une pensée. Le problème n'est peut-être pas d'abord que nous achetions un t-shirt qui a été fabriqué au Bangladesh dans des conditions épouvantables, même s'il est normal et qu'il est sain que cela nous pose question. Le premier problème, c'est peut-être que nous en achetons 10 alors que nous n'en avons pas vraiment besoin. En faisant cela, nous ratifions la construction d'un système dans lequel la consommation, le profit ou la croissance deviennent des buts en eux-mêmes et où les plus fragiles risquent d'en payer le prix. Un système dans lequel la liste des biens qui se vendent et s'achètent se termine, comme dans la liste de l'Apocalypse, par la mention effrayante des corps et des âmes d'hommes. Apocalypse chapitre 18, verset 13. Si nous consommions moins, nous serions peut-être aussi capables de payer le prix nécessaire pour que ceux qui fabriquent les produits que nous achetons vivent mieux. Le simple arrêt que je suggère est à lui seul un témoignage, même s'il semble ne pas servir à grand-chose. Et là encore, c'est la grâce qui peut nous enseigner à nous arrêter, en nous ramenant au repos de notre âme et à la vie éternelle que nous promet et que nous donne Jésus notre Sauveur. Mais dans un certain nombre de cas, nous pouvons aller plus loin, et d'ailleurs, dans l'article que je citais, Pierre Sauvagnoni le dit aussi, et nous pouvons témoigner de notre souci du bien commun de la société humaine dans notre usage de l'argent par divers actes et engagements. Si c'est le cas, allons-y, sans hésiter. Essayons de chercher des démarches qui correspondent à notre vocation et aux occasions de faire le bien que Dieu nous présente. Si nous avons des enfants, les éduquer à la solidarité, par exemple, au hasard, en parrainant un enfant avec le sel. En réfléchissant et en adaptant nos habitudes de consommation et en combinant à cela l'adoption de certains gestes simples pour recycler ou réduire nos déchets, car la dégradation de l'environnement pénalise les populations pauvres. Réfléchir à ce que nous pourrions faire pour encourager des pratiques plus responsables sur le plan social dans l'usage que l'entreprise dans laquelle nous travaillons fait de son argent. Les démarches dites alternatives, comme le commerce éthique ou équitable, méritent également l'attention des chrétiens, de même que les actions citoyennes, voire politiques, pour faire évoluer les échanges nord-sud. Il est aussi tout à fait légitime d'envisager de boycotter certaines entreprises dont les pratiques sociales nous paraissent inacceptables. Dans tous ces domaines, il me semble que les indications pratiques devraient se formuler pour reprendre une distinction que j'ai trouvée chez Kevin DeYoung avec des injonctions du type « Voici ce que Dieu pourrait vous appeler à faire au nom de l'amour » plutôt qu'avec des « Voici ce que Dieu dit que vous devez faire si vous voulez arrêter de pécher ». Vous sentez la nuance ? C'est quand même un peu important. Je conclus. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'usage de notre argent face à ceux qui vivent dans la pauvreté ? Tout semble être devenu si compliqué, mais pourtant les grandes lignes s'énoncent très simplement. Il nous faut mettre jour après jour notre confiance dans la bonté et la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Tels nous sentirons que Dieu est à notre égard. Tels nous serons pour notre prochain. Puis il nous faut apprendre à aimer notre prochain, en sachant que l'amour pour le prochain au sein d'un monde déchu portera aussi la marque du renoncement, caractéristique de la vie d'un disciple de Jésus. Demandons-nous quels actes de renoncement nous pourrions poser par rapport à notre argent et qui pourraient bénéficier à des personnes qui vivent dans la pauvreté. En fonction de notre vocation et des occasions de faire le bien que Dieu nous accordera, nous contribuerons au bien de notre société en nous arrêtant, en témoignant, en posant des actes divers et variés, sans chercher à devenir juste à l'excès, mais sans hésiter non plus à nous mettre à l'œuvre, voire à nous salir les mains. N'oublions pas que le seul fait de participer à un système mauvais ne nous fait pas pécher personnellement. N'oublions pas non plus que le commandement de l'amour du prochain est exigeant et ne peut pas nous laisser inactifs. N'oublions pas que nous ne sommes pas tous appelés à accomplir les mêmes actions. N'oublions pas enfin, et c'est le plus important, que c'est en se mettant à l'école de la grâce que nous acquérerons l'art de vivre selon Dieu dans le monde présent. Laissons-nous surprendre par tout ce à quoi la grâce et la croix de Jésus-Christ pourrait nous entraîner. Un mot d'encouragement pour finir. Si la situation actuelle est vraiment plus compliquée que celle des générations précédentes, c'est à voir, mais supposons. Elle appelle de notre part une foi d'autant plus grande. Si nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous pouvons attendre de Dieu une grâce exceptionnelle. C'est la grâce et la fidélité de Dieu en Jésus-Christ et les ressources qu'il nous donne par le Saint-Esprit qui forment le fondement d'un sain usage de notre argent par rapport aux personnes qui vivent dans la pauvreté. Et c'est ainsi que la gloire reviendra à Dieu seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.